Vous écoutez, on lit pour vous.
Le cancer du col de l'utérus peine à être éradiqué. Un texte de Pauline Gravel paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir. Alors que l'incidence et le taux de mortalité de la plupart des cancers sont en constante diminution au Canada, ceux du cancer du col de l'utérus stagnent, voire ont légèrement augmenté ces dernières années, et ce, alors qu'on visait l'éradication de ce cancer d'ici 2040. Après une longue période de déclin entre 1984 et 2005, l'incidence du cancer du col de l'utérus ne diminue plus et a même connu une légère augmentation au cours des dernières années, apprend-on dans le rapport statistique canadien sur le cancer 2025 élaboré par le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la Société canadienne du cancer, SCC, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. C'est pourtant un type de cancer pour lequel la diminution devrait se poursuivre, car la population a accès à des programmes de prévention et de dépistage. La vaccination contre le virus du papillomavirus humain, VPH, ainsi que le test PAP, qui détecte les cellules précancéreuses, deux stratégies qui préviennent le cancer du col de l'utérus, lequel est fortement associé au VPH, souligne en entrevue le docteur Denis Soulière, hématologue, oncologue et porte-parole scientifique et médical de la SCC. Malgré la disponibilité de ces tests, malgré la vaccination, malgré le fait qu'on remplace graduellement le test PAP par un test de dépistage de l'ADN du VPH, qui mesure directement la présence du VPH au niveau du col, le niveau de cancer du col de l'utérus demeure important et ne va pas dans le sens d'une diminution que l'on voudrait voir pour atteindre l'objectif de l'éliminer en 2040, déplore-t-il. Il est vrai qu'on ne constatera les grands effets de la vaccination que dans quelques années, car elle n'a débuté qu'en 2008 et visait les fillettes de 9 à 12 ans avant qu'elles ne deviennent sexuellement actives. Mais cela nous amène à penser que si on a une stagnation de ce cancer actuellement, c'est que les mesures de dépistage ne sont pas assez bien suivies. Or, le dépistage est en soi une mesure de prévention parce qu'il permet de voir des lésions précancéreuses qui peuvent être traitées et ainsi éviter le développement du cancer du col, explique-t-il. La leçon à retenir des statistiques actuelles, c'est qu'on ne doit pas concentrer tous nos efforts sur la vaccination parce qu'il y aura toujours une population non vaccinée et que même vaccinée, une personne reste à risque de développer une infection car le vaccin ne procure pas une protection à 100%. Le dépistage doit rester une mesure très importante dans les prochaines années. Toutes les femmes qui ont une vie sexuelle active devraient avoir soit un test PAP tous les deux ans ou le test VPH, là où il est disponible, tous les 3 à 5 ans, souligne-t-il. Facteur de risque. Le rapport souligne par contre que les taux d'incidence et de mortalité du cancer du poumon et du cancer colorectal ont connu une diminution importante ces dernières années. En dépit de cette baisse, le cancer du poumon, qui n'est pourtant pas le plus fréquent, demeure en 2025 le plus grand tueur parmi les différents types de cancers. De plus, ce cancer frappera un plus grand nombre de femmes que d'hommes cette année. Le tabagisme est un facteur de risque qui est légèrement plus élevé chez la femme que chez l'homme. En fait, le risque d'une personne tabagique de développer un cancer du poumon est légèrement plus élevé chez les femmes que chez les hommes pour la même quantité de tabac consommée. De plus, la démocratisation du tabagisme a fait en sorte qu'autant, sinon plus de femmes, ont été exposées au tabac et ont développé des risques conséquents pour le cancer du poumon, mais aussi pour les cancers de la gorge, du sein et du côlon, précise le docteur Soulière. Le rapport souligne aussi que les cigarettes électroniques et les liquides de vapotage contiennent des cancérogènes déterminés et probables et produisent des matières particulières qui sont un facteur de risque bien établi de cancer du poumon. Et le radon, un gaz radioactif qui se trouve dans le sol et peut s'infiltrer dans les habitations par leur fondation, est le deuxième facteur de risque du cancer du poumon après le tabagisme. Des programmes de dépistage du cancer du poumon sont peu à peu mis en place au Canada. Ce dépistage vise une population à risque, soit une population tabagique. Les données les plus récentes nous montrent qu'effectivement, les programmes de dépistage, lorsqu'ils sont bien appliqués à une population cible et bien identifiés, aident à réduire la probabilité de décès par cancer du poumon parce qu'ils permettent de détecter ce cancer à des stades beaucoup plus précoces. Et comme nous disposons aussi aujourd'hui de thérapies qui sont plus efficaces, il est encore plus pertinent de faire un dépistage. Explique le docteur Soulière qui affirme qu'on insiste depuis longtemps auprès des différentes instances pour qu'il y ait un programme plus systématique au Québec. Mais un tel programme de dépistage requiert des ressources radiologiques qui sont souvent manquantes au Québec et une médecine de première ligne pour diriger les patients qui est déficiente. Par ailleurs, des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années pour les leucémies, les cancers hématologiques de la vessie et de l'estomac, dont le taux de mortalité a clairement baissé. Bien que l'incidence du mélanome n'augmente plus chez les hommes depuis 2016, il en est tout autrement chez les femmes, qui sont chaque année plus nombreuses à en être atteintes. Le cancer du pancréas, par contre, échappe à ces progrès, ce qui en fait la troisième cause de décès par cancer en 2025. Néanmoins, on observe une petite amélioration grâce aux approches chirurgicales et au fait qu'un certain nombre de cas sont diagnostiqués un peu plus tôt qu'auparavant. De façon générale, les gens ont plus d'échographies, plus de scans pour d'autres raisons, qui font en sorte qu'on arrive à dépister un certain nombre de cas plus tôt, affirme le docteur Soulière. Le rapport rappelle aussi que l'alcool est un facteur de risque pour plusieurs cancers. L'alcool n'est pas associé qu'au cancer du foie et de la gorge. Il est aussi à d'autres types de cancers, dont le cancer du sein. Il y a toutefois beaucoup de controverses quant à la quantité d'alcool qui augmente le risque, indique le docteur Soulière. C'était « Le cancer du col de l'utérus peine à être éradiqué », un texte de Pauline Gravel, paru le 17 novembre 2025 dans Le Devoir.
Première Québécoise médaillée aux Jeux olympiques. Un texte de Marc Tison, paru le 1er novembre 2025 dans la presse. La Québécoise Hilda Strike a remporté une médaille d'argent aux 100 mètres en athlétisme aux Jeux olympiques de 1932. On découvrira 50 ans plus tard que la Polonaise ayant décroché l'or montrait des anomalies chromosomiques et anatomiques qui, en d'autres temps, l'auraient disqualifiée. Hilda Strike était donc la femme la plus rapide du monde en août 1932. Le 2 août 1932 se tient la finale du 100 mètres chez les femmes aux Jeux olympiques de Los Angeles dans l'immense stade qui peut accueillir 105 000 spectateurs. Le film de la course montre la Québécoise Hilda Strike qui s'élance dans le troisième couloir, presque au centre de la piste. Elle est la première à bondir hors de ses trous de départ. Les blocs de départ n'existaient pas encore. Mais sur sa gauche, dans le premier couloir, la gigantesque Américaine Wilhelmina von Bremen semble revenir à sa hauteur. La Québécoise tient son rythme et se détache de l'Américaine dans les 20 derniers mètres. Hilda lève les bras en signe de victoire au fil d'arrivée, tendant sur son torse le maillot orné d'une large feuille d'érable. Un peu prématurément, toutefois. Le défilé est déjà étiré par la poitrine de la Polonaise Tanislawa Walasiewicz, deux couloirs sur sa droite, qui l'a coiffée par un cheveu au poteau. Toutes les deux ont réalisé un temps de 11,9 secondes, égalant le record du monde. Il a fallu attendre 20 minutes avant d'apprendre la décision des juges, a raconté Hilda Strike en entrevue avec un journaliste de la presse en 1976. L'or est décerné à l'impassible Polonaise, dont l'austère visage est perpétuellement fermé. Elle est connue sous le nom de Stella Wash aux États-Unis, où elle a émigré quelques mois après sa naissance. N'ayant pas encore la nationalité américaine qu'elle obtiendra en 1947, elle a accepté de courir pour la Pologne. Cinq jours plus tard, Hilda Strike remporte une seconde médaille d'argent au relais 4 x 100 mètres, de nouveau avec une quasi-égalité en tête et deux temps identiques de 47 secondes pour un nouveau record du monde attribué aux Américaines gagnantes de la médaille d'or. Première Québécoise aux Jeux. En 1928, 7 Canadiennes, mais aucune Québécoise, s'étaient rendues à Amsterdam pour les premiers Jeux auxquels les femmes étaient admises comme concurrentes. À Los Angeles, en 1932, à 21 ans, Hilda Strike est l'une des trois premières Québécoises à participer aux Jeux olympiques avec une autre sprinteuse, Mary Van der Leet, et la fleurettiste Joan Archibald. La délégation canadienne compte 108 hommes et 19 femmes. Les athlètes canadiennes sont populaires à Los Angeles. Elles sont reçues au studio MGM par la célèbre actrice Norma Shearer, elle-même née à Montréal. Le Los Angeles Examiner écrit que « Les Canadiennes sont sans aucun doute les plus jolies et les plus saines d'apparence parmi toutes les filles venues participer à la compétition », ajoutant quelques appréciations supplémentaires qui ont peu à voir avec leur qualité athlétique. Sur les photos qui montrent côte à côte les trois médaillées du 100 mètres de Los Angeles, Hilda Strike paraît minuscule. À 1,59 m, elle arrive à l'épaule de Stanislawa Walasiewicz, qui mesure 1,74 m. Encore plus grande, l'Américaine Wilhelmina von Bremen atteint 1,82 m. C'est peut-être justement le contraste entre sa taille et sa vitesse qui avait attiré l'attention d'une experte 3 ans plus tôt sur un terrain de balle de Montréal. Une sportive. Hilda Strike est née le 1er septembre 1910 dans le quartier Côte-Saint-Paul au sein d'une famille sportive. Son père, Frédéric Strike, hockeyeur professionnel à temps partiel, avait remporté en 1904 le premier championnat de l'International Professional Hockey League avec les Miners de Calumet, petite ville du Michigan. « J'ai toujours su courir », confie-t-elle à David McDonald dans son livre « For the Record, Canada's Greatest Woman Athlete », paru en 1981. Ça m'est venu naturellement. Je me souviens que ma première expérience de course à pied remonte au pique-nique annuel de l'école du dimanche. Sportive aussi polyvalente qu'accomplie, Hilda pratique la natation, le patinage, le badminton, le basketball, le volleyball, le ski. Et surtout, la balle molle. Entre deux manches, les joueuses de son équipe font des sprints pour distraire les spectateurs. C'est à cette occasion qu'elle est remarquée en 1929 par une journaliste du Montreal Daily Star, Myrtle Cook. La journaliste s'y connaît. En 1928, Cook était membre du quatuor des Canadiennes qui avait remporté la médaille d'or dans le 4x100 mètres aux Jeux olympiques d'Amsterdam avec un record du monde. Arrivée à Montréal en 1929 pour épouser le journaliste Lloyd McGowan, elle tient depuis lors la rubrique « In the Woman's Spotlight » dans le Montreal Daily Star. Myrtle Cook convainc Hilda Strike de se joindre au Canadian Ladies Athletic Club qu'elle vient de fonder. Hilda Strike saute sur l'occasion et sur la piste. Le 29 septembre 1929, la presse fait déjà état de sa deuxième place à la finale du 100 mètres au handicap d'automne de la Montreal Amateur Athletic Association, MAAA. Durant la belle saison, les athlètes du club s'entraînent sur le terrain de la MAAA, rue Sainte-Catherine à Westmount. En hiver, elles empruntent les corridors supérieurs du forum, d'où elles sont chassées par les placiers à l'arrivée des premiers spectateurs, les soirs de matchs de hockey. C'était les années dures pour les athlètes amateurs. Nous devions organiser des parties de cartes, la vente de pâtisseries, faire preuve de toutes sortes d'initiatives pour pouvoir pratiquer notre sport, car rien, absolument rien ne nous était donné, racontera-t-elle à la presse en juillet 1976, à l'occasion des Jeux olympiques de Montréal. Hilda n'abandonne pas la balle molle pour autant. En mai 1931, la joueuse de premier but est membre de l'équipe montréalaise qui se fait étrier 23-5 par une équipe de Toronto dans le match inaugural de la Major Ladies Softball League. En mai 1932, elle est championne du Québec sur 100 mètres avec un temps de 12,2 secondes, équivalent à celui de la médaillée d'or à Amsterdam en 1928. Aux essais tenus les 9 et 10 juillet 1932 à Hamilton, elle est sélectionnée dans l'équipe olympique canadienne. Elle prend le train pour Los Angeles où deux médailles l'attendent. Athlète de l'année. En décembre 1932, Hilda Strike est nommée athlète féminine de l'année au Canada et athlète la plus populaire de Montréal. Aux Jeux de l'Empire britannique en 1934, elle gagnera encore deux médailles d'argent dans le 100 verges et le relais medley 440 verges. Elle cesse la compétition et se marie en 1935 avec le Montréalais Fred Sisson. Mais son 100 mètres de 1932 va ressurgir 45 ans plus tard dans l'actualité. Surprise. Le 4 décembre 1980, Stella Wash, âgée de 69 ans, est abattue dans le stationnement d'un centre commercial de Cleveland par deux voyous qui tentent de lui dérober son sac à main. Encore remarquablement forte, elle a voulu saisir le revolver dont le coup est parti. Sa mort violente entraîne une autopsie. La veille de ses funérailles, une station de télévision de Cleveland annonce que l'athlète la plus remarquable de son époque était en réalité un homme soulevant l'ire de la communauté polonaise de la ville. Dans son rapport rendu public en janvier 1981, le coroner Samuel Gerbert est plus nuancé. Sans se prononcer sur son genre, sinon pour rappeler qu'elle a vécu comme une femme toute sa vie, il constate que Walsh n'a ni utérus, ni ovaire, ni vagin, mais un pénis sous-développé et non fonctionnel. L'analyse génétique révèle qu'elle montrait une anomalie chromosomique appelée mosaïcisme qui lui avait laissé des organes génitaux sexuellement ambigus. Cet état aurait pu entraîner sa disqualification, mais les tests génétiques ne sont apparus qu'aux Jeux olympiques de 1968. La médaille d'or du 100 mètres de 1932 devrait-elle être attribuée à Hilda Strike? Les petits-enfants d'Hilda Strike interpellent, en vain, le Comité international olympique et la Fédération internationale d'athlétisme amateur, mais la principale intéressée n'entreprend aucune démarche directe. Jeux de Los Angeles, 1984. Le retour des Jeux olympiques à Los Angeles en 1984 sera l'occasion de ressasser l'affaire Walsh. Je voyais bien qu'elle était plus grosse et plus forte que les autres et qu'elle avait les manières d'un homme. Mais je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait en être un, confie Hilda Strike au journal De Gazette en août 1984. La Fédération internationale d'athlétisme amateur refuse de lui accorder rétrospectivement la médaille d'or, mais le 6 août 1984, son secrétaire général, John Holt, reconnaît qu'elle a tout à fait le droit de se considérer comme la femme la plus rapide du monde à l'époque. Le même jour, la plongeuse Sylvie Bernier devient la première Québécoise à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques. Fin de course. Hilda Strike demeure la seule Québécoise à avoir gagné une médaille en athlétisme aux Jeux olympiques. Ces exploits ne sont peut-être pas étrangers à la création, en 1934, de la Fédération québécoise d'athlétisme, alors appelée Province of Quebec Track and Field Association. Lors de la célébration du 50e anniversaire de sa fondation, le 24 novembre 1984, une médaille d'or symbolique lui est attribuée. Alitée, elle fait savoir par son mari que jamais un présent ne lui a fait autant plaisir. Elle franchit l'ultime file d'arrivée le 9 mars 1989. C'était la première Québécoise médaillée aux Jeux olympiques. Un texte de Marc Tison, paru le 1er novembre 2025 dans la presse.
Il est urgent de repenser le modèle de logement pour les aînés, disent des experts. Un texte de Julie Landry, publié le 24 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada. la Colombie-Britannique fait face à une crise du logement qui touche de manière croissante les personnes âgées. Cette situation a été mise en lumière lors d'une conférence sur le logement à Vancouver, où il a été établi qu'il existe un manque de places dans les foyers de soins de santé, ainsi qu'un manque d'aide pour les aînés désirant préserver leur autonomie plus longtemps. Nicolas Le Bessie, âgé de 65 ans, vit dans un logement subventionné dans le centre-ville de Vancouver. S'il adore son quartier, il a pourtant failli être dans l'obligation de le quitter. À la suite d'un accident et d'une hospitalisation, il a en effet eu des problèmes de mobilité et a nécessité de l'aide, ce que lui a fourni l'organisme à but non lucratif All Way House, un groupe qui a pour mission de permettre aux personnes de vieillir le plus longtemps chez elles. Ils ont trouvé les problèmes que j'avais. Ils ont réglé mon lit qui était trop bas à cause de problèmes avec les genoux, explique le sexagénaire, très reconnaissant. L'organisme l'a également mis en lien avec quelqu'un qui passe deux fois par semaine pour l'aider à faire le ménage. Ils viennent pour une heure et demie, mais ça aide tellement. Ça m'aide beaucoup à garder la place nette, à rester tout seul, sans m'ennuyer trop, sans problème, dit Nicolas Le Bessie, qui ne veut même pas imaginer ce qu'aurait été sa situation sans cette aide. Le risque, comme le souligne la présidente de All Way House, Jenny Conkin, c'est l'itinérance. Elle cite une étude de l'Association des services pour sans-abri de la Colombie-Britannique, selon laquelle 45 % des sans-abri de 55 ans et plus le sont devenus pour la première fois après 55 ans. Il y a un vrai problème, dit la présidente. Son groupe a calculé qu'en investissant en moyenne 1 000 par personne et par année afin d'adapter son intérieur, de fournir un peu d'aide et d'offrir des programmes sociaux, ces personnes peuvent rester chez elles beaucoup plus longtemps. Système déconnecté de la réalité. Le financement pour ce genre d'organisme est difficile à trouver ou insuffisant, et il y a trop peu de logements subventionnés pour les personnes âgées, déplorent des intervenants en logement comme Cora Le Caire de la Nanaimo Family Life Association. Elle explique qu'un logement qualifié d'abordable par le système est un logement de 1 400 par mois, ce qui représente jusqu'à 90 % de l'aide fournie aux personnes âgées. Nous mettons donc au premier plan de la discussion la question du loyer indexé sur le revenu. Le loyer indexé sur le revenu n'est donc pas déterminé par le marché, mais plutôt par un pourcentage du revenu d'une personne, explique-t-elle. Ce message est de plus en plus entendu par les gouvernements. Ainsi, 400 nouveaux logements abordables avec loyer indexé sur le revenu seront construits sous peu dans la grande région de Vancouver. La présidente de l'Association des logements à but non lucratif de la Colombie-Britannique, Jill Atkey, applaudit le Fonds de protection des loyers de la Colombie-Britannique qui a permis à son organisme d'acheter 40 bâtiments privés pour permettre aux locataires d'y rester et de continuer à payer un loyer plus bas que le marché. Il faut repenser le système au complet. Le défi majeur réside dans le maintien à domicile des personnes qui deviennent de moins en moins autonomes. Tous les intervenants interrogés par Radio-Canada dans le cadre de cet article ont souligné un problème récurrent. Selon eux, il existe un fossé entre les logements pour personnes indépendantes et les soins de longue durée. Ils avancent que ce fossé est exacerbé par le fait que deux ministères différents, santé et logement, gèrent ces secteurs. Ouvrir en mode plein écran. L'organisme All Way House organise des activités communautaires dans les logements subventionnés pour créer du lien social entre les résidents. Ici, le thème était « Karaoké et café » à la maison Alexander à Vancouver. Photo Radio-Canada. Madeleine Hébert, spécialiste du logement de la firme d'urbanisme AP Cities, explique que le système actuel n'a pas été pensé pour des personnes qui vieillissent seules, isolées ou qui vivent très longtemps. Il y aura beaucoup de gens sans enfants ou des familles pas connectées, donc il faut vraiment transformer notre système. Elle croit qu'il faut repenser ce dernier pour que les initiatives positives qui existent soient mieux subventionnées et qu'elles existent à plus grande échelle. Ouvrir en mode plein écran. La spécialiste du logement à AP Cities, Madeleine Hébert, croit que si tous les acteurs travaillent ensemble sur le dossier du logement, le système peut s'améliorer. Photo, Radio-Canada, Julie Landry. Elle donne l'exemple de la société de logement McLaren, qui gère, entre autres, la maison Elkin, H-E-L-M-C-K-E-N, un bâtiment logement pour personnes atteintes du VIH et du SIDA. La totalité des résidents voudraient y rester longtemps et il suffirait d'un peu d'aide financière pour que ce soit possible. Iyam Kassam est le directeur de la société McLaren. Ce qui est nécessaire et qui, selon moi, peut également être transposable à d'autres projets, c'est en fait de repenser le bâtiment dont nous disposons actuellement et de le rendre plus accessible et plus adapté aux personnes âgées, afin que celles-ci puissent vieillir chez elles, puis d'y intégrer les aides nécessaires, explique-t-il. La ministre du Logement de la province, Christine Boyle, assure que le logement pour les personnes âgées est un sujet extrêmement important. Elle rappelle que la province a élargi les critères d'admissibilité pour l'aide au foyer et en a augmenté le montant mensuel. Si Christine Boyle ne reconnaît pas directement qu'il y a un fossé entre son ministère et celui de la Santé, elle déclare toutefois « Nous sommes toujours en dialogue avec les parties prenantes des communautés qui travaillent avec les personnes âgées afin de tirer profit de leur expérience, de nous assurer qu'il n'y a pas de lacunes et de collaborer pour y remédier. » C'était « Il est urgent de repenser le modèle de logement pour les aînés, disent des experts », un texte de Julie Landry publié le 24 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada.